Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Annonce aujourd'hui, donc, selon le Journal de Montréal, sur le plan de déconfinement. Ça devrait en principe être à 14 heures cet après-midi. Philippe-Vincent Foisy, conjoint dans les studios de Cube Radio. Philippe-Vincent, bon, là, ce sera pas des petits parties, ce sera de très, très petits parties, mais il y a quand même de l'espoir là-dedans.
Oui, ben au moins, on commence à regarder vers le bout du tunnel. Cette fameuse lumière, on va commencer enfin à la sentir à partir de ce qu'on nous dit dans le Journal de Montréal, du 31 janvier. Donc, M. Legault pourra pas se faire accuser d'être en retard sur l'Ontario. Il va pouvoir même utiliser la carte qu'il a été un petit peu plus prudent que l'Ontario, mais qu'en bout de ligne, on arrive au même résultat. Ce qu'on comprend ce matin, c'est qu'on va rouvrir les restaurants, mais simplement pour des groupes de quatre. Là, une bulle familiale ou deux bulles, mais maximum de quatre, que le sport pour les jeunes va reprendre. On parle pas des lieux de culte, mais normalement, nous, on nous avait dit que ça faisait partie des services essentiels. Et là, le gros défi aujourd'hui de François Legault, ça va être de bien communiquer tout ça, le calendrier, comme pourquoi on le communique, pourquoi on permet le sport chez les jeunes à ce moment-ci, quel genre de sport, tous les sports, mais aussi pour les restaurants, les salles de spectacle, le cinéma. Ça va être important d'avoir une séquence des ouvertures, mais aussi une explication claire sur pourquoi, par exemple, on ouvre une église avant d'ouvrir un cinéma. Pourquoi dans une église, il y a moins de cas de transmission que dans un cinéma, par exemple, ouvert à 50 % de la capacité. Même chose pour une salle de théâtre, pour une salle de spectacle. Alors, aujourd'hui, son gros défi, ça va être de dire aux Québécois, regardez, voici là, le raisonnement qu'on a en ce moment, voici ce que la santé publique nous dit, et s'il vous plaît, continuez de nous suivre. Mais pour qu'on continue de suivre le gouvernement, ça va prendre de la cohérence, des explications claires aussi. Et ça, vraiment, c'est son gros défi aujourd'hui, là.
Par ailleurs, parlons de Lionel Carman avec un plan là, qu'on nous a annoncé hier, mais finalement, on réalise qu'on continue de faire ce qu'on a déjà fait là.
Ouais, on fait un petit peu plus de ce qu'on a déjà fait, notamment les cliniques mobiles là, dans des autobus, par exemple, qu'on va redéployer. Tant mieux. D'ailleurs, on peut juste dire tant mieux s'il y a une clinique qui existe à un endroit où il y a des gens qui normalement ne seraient pas allés se faire vacciner, vont peut-être arriver, la voir, poser des questions. Et si on peut vacciner 3-4 personnes, une centaine de personnes au cours des deux prochaines semaines grâce à cette clinique mobile-là, c'est quand même 100 personnes qui vont être mieux protégées et qui vont être mieux protégées, qui vont peut-être protéger aussi leurs proches. Ceci dit, on serait peut-être dû de penser à une autre stratégie qu'uniquement la main tendue. Là, on va me créer une ligne téléphonique pour répondre aux questions sur les vaccins. Je te dirais, Marianne, ceux qui avaient des questions importantes sur les vaccins, ben ils sont allés sur YouTube au cours des deux dernières années et de déprogrammer ça va prendre plus qu'une ligne téléphonique gouvernementale payée par le gouvernement, alors que ces gens-là ont des craintes par rapport au gouvernement. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment dû encore à faire une main tendue? Il aurait pas fallu faire un peu plus d'accompagnement? Il y a des groupes communautaires qui disent, nous, on va cogner aux portes. Nous, il y a des ressources qu'on utilise pour aller cogner aux portes des gens dans des quartiers où on sait que la vaccination, elle est moins grande, et on leur parle, on interagit avec eux, on leur pose des questions, on les écoute et ensuite, on est capable de trouver des réponses et c'est une façon de les convaincre, mais eux auraient espéré du financement pour être en mesure d'élargir ces services-là et de payer les ressources qui sont utilisées pour faire ce genre de travail-là. Donc, on est plus que dans la main tendue, on est plus dans la main derrière le dos, on prend par la main. Parce que là, la claque, elle s'en vient. La claque, ça va être l'amende des non-vaccinés. Mais entre la main tendue puis la claque, on pourrait quand même avoir des mesures entre les deux. Le gouvernement ne pourra pas dire qu'il a fait tout en son possible avant d'imposer cette amende-là si on utilise uniquement ce qui a été annoncé hier par le ministre Carman.
Par ailleurs, parlons de ces camionneurs. C'est quoi le convoi de la liberté?
Ouais.
Bon, on part déjà de l'Ouest. L'idée, c'est vendredi, donc, d'être sur la colline parlementaire, manifestation, etc. C'est un mouvement qui ne peut pas être ignoré, là.
Non, parce que si vous prenez la route, vous risquez de les voir, là, si vous essayez de traverser le Canada en ce moment. Après ça, ils sont quand même nombreux. Et ce mouvement-là, faut quand même comprendre que c'est parti d'un mouvement de camionneurs. Il y a à peu près 10 % des camionneurs qui traversent la frontière frontière canado-américaine qui ne sont pas vaccinés, donc qui ne peuvent plus traverser cette frontière-là parce qu'il y a une obligation vaccinale au Canada, mais aussi aux États-Unis. Il faut comprendre qu'il y a réciprocité dans ce dossier-là par rapport à la vaccination et que le convoi des camionneurs est parti en mode on est opposé à cette obligation canadienne-là. Mais depuis, comme n'importe quel de ces mouvements-là, s'est greffé autour de ce mouvement-là beaucoup de anti-vaccins, de complotistes. Mmh. Et plus ça avance, plus il y a ces greffes-là qui s'accumulent au point où, par exemple, il y a un GoFundMe, là, une campagne de sociofinancement qui a recueilli des millions de dollars, qui avait été partie par quelqu'un en Alberta associé au mouvement Maverick, mais qui n'est pas du tout une camionneuse ou associée à des camionneuses. Alors, il y a comme beaucoup de confusion. C'est devenu un peu un mouvement fourre-tout. Et là, ce que ça fait politiquement, ben, ça met dans l'embarras le Parti conservateur parce que le chef Erin O'Toole, qui il y a deux semaines appuyait les camionneurs non vaccinés, demandait des accommodements, ne veut plus répondre. Est-ce qu'il va les rencontrer? Est-ce qu'il est d'accord avec leurs revendications? Il y a même de ses députés, dont l'ancien chef Andrew Scheer, qui a tweeté « Bravo aux camionneurs, bravo de défier cette mesure liberticide de Justin Trudeau ». Ça s'ajoute à un autre tweet qu'on a vu de Pierre Poilievre qui dit « Les gouvernements qui sont affamés de pouvoir, les gouvernements liberticides, il faut que ça arrête ». Donc, dans le Parti conservateur, on sent cette fracture-là ou cette mouvance-là qui appuie ceux et celles qui sont contre les mesures sanitaires. Mesures sanitaires qu'il faut quand même rappeler qui, pour la plupart, sont mises en œuvre par des gouvernements provinciaux qui sont pas mal conservateurs dans le Canada, là.
Alors qu'on voit justement le tweet d'Andrew Scheer.
Il dit, regardez ça, là.
Suivre comme dossier.
Justin Trudeau est la plus grande menace à nos libertés au Canada. Quand même.
Exact, exact.
Le premier ministre, là.
À suivre, à surveiller. Merci beaucoup.
Salut, Marianne. Vincent.